Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Soutient la musique locale.
Écoutez Cancre, je veux voler.
Je veux voler pour ne jamais mourir. Je veux mourir pour toujours m'envoler.
Le trio morlaisien revient avec un nouvel extrait de l'album Tout s'efface. Dans la chanson Je veux voler, leur rock noir et intense raconte l'urgence du désir d'évasion. Cancre, je veux voler.
Un coup de cœur, ici Bray Zizel.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts.
Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
Nous sommes de retour dans la famille. En ce moment, il fait beau, il fait froid. Ben, on est dans le nord. Il y avait un indice. Et en plus, il y a un vent de voleur. C'est une situation que j'aime peu parce qu'en général, quand on dit, oh, il fait froid, on nous répond, ben non, fait pas froid. C'est le vent qui est froid. Je pourrais la taper, la personne qui me dit ça. Parce que la conséquence directe du vent froid, c'est qu'il fait froid. Du coup, avance et ferme votre gif. Donc, je résume.
10h et 16h, prochainement, des événements seront organisés qui s'appellent Dans la foulée des biches. Affaire à suivre.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Adi Oubalen et Adi Sias à toutes. Est-ce que vous connaissez le mot fenestrou? Ben, une fenestrou est une fenestre pitchotte. C'est une petite fenêtre. Peut-être une couple obésie m'a bien contat qu'a bien passepougu d'intra d'in l'oustal. Un jour, mon voisin m'avait raconté qu'il n'avait pu rentrer chez lui. J'avais expliqué, vous savez pourquoi? Ben, sa femme avait clavé la porte d'entrée. Clavé, qui vient de l'occitan clava. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, je dirais fermé à clé, verrouillé.
Et en effet, je m'explique. Mon voisin était sans clé et sa femme, eh bien, elle était parti faire une course en ville. Comme il n'avait pas les clés, eh ben, Charbel Zekefaguet, vous savez ce qu'il a fait? Eh ben, t'es passé par le fenestro del garage. Il est donc passé par le fenestro du garage. Le fenestro est lingo nostro. C'est la lucarne, le vasistas, une précisionnette. Je papla, je pèse l'oubégier, et steunier, et je magre. Mon voisin est maigre. C'est bien pour ça qu'il a pu passer par le fenestro du garage.
Et le fenestro, ça peut être autre chose?
Eh bien, oh, eh bien oui, le fenestro bremonde. Et stabé l'autre mot pour parler de la télévision. Ce mot fenestro s'utilise également pour parler de la télévision. Bon, surtout une copère, surtout autrefois, car les téléviseurs étaient pitchous. Ils étaient petits. D'ailleurs, quand les premiers postes sont arrivés, certaines personnes appelaient cet objet ben, le fenestro. Mais depuis, eh bien, les choses ont bien changé avec ces grands écrans de télévision.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
Je ferai n'importe quoi pour un flirt petit tour au petit jour entre tes draps.
Profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Pays d'Auvergne.
Nous sommes avec une des dernières et la plus ancienne fabrique de pâtes de fruits en Auvergne. Avec Anthony Vallat, qui est le directeur général. Merci de nous recevoir, Anthony. Nous sommes face à une vieille photo qui montre, je pense, le tout début de cette maison Cruzy, c'est ça ?
C'est pas le début historique, hein, puisque la maison Cruzy a été fondée en 1880, mais c'est effectivement une photo du site de fabrication ici, sur la zone du Brézé, telle qu'il était en 1956, au moment où la maison Cruzy a déménagé du centre de Clermont pour venir s'installer sur la zone du Brézé.
De l'usine Goffredi à Mijan-Mermoz sur le champ d'Angélique. Et on aperçoit des angéliques sur ce champ.
Et l'angélique étant un des produits un petit peu signature des confiseurs et de la confiserie. Et donc c'est un beau clin d'œil de l'histoire que de penser que voilà, notre site de fabrication ici est basé sur un ancien champ d'angélique. Voilà.
L'angélique, ces petits bâtonnets de couleur verte, hein, c'est
exactement.
Ça, je ne dis pas de bêtises.
Il y a beaucoup de particuliers qui ont aussi de l'angélique à la maison.
Voilà. C'est la tige.
On confie la tige, tout à fait.
D'accord, oui. Ok. Et aujourd'hui, vous en faites toujours. Vous avez toujours des producteurs d'angélique qui bossent avec vous.
Oui, tout à fait. C'est un agriculteur qui vient nous livrer en tracteur chaque année. C'est au mois d'août, quand la récolte est prête. On se met d'accord avec lui l'année d'avance sur les quantités dont on aura besoin. Et puis il vient nous livrer. On la travaille, on la prépare. Et puis après, on va la faire confire. Donc c'est un produit auquel on tient beaucoup.
Il y a toujours une grosse tradition autour de ça. En Auvergne, on offrait des pâtes de fruits, c'était un incontournable.
Effectivement, la création de la pâte de fruits a été faite en Auvergne. Hein. À la base, la pâte de fruits s'appelait la pâte d'Auvergne. Et c'était vraiment une spécialité, on va dire, régionale. Ce qui a fait que l'Auvergne était une terre de fruits confits, c'est que, on va dire que la noblesse venait, descendait de Paris dans le 16e, 17e siècle et venait dans les cures, à Roya ou autre. Ils découvraient, ils dégustaient les fruits d'Auvergne. Et la méthode de conservation à l'époque, hein, puisqu'on n'avait pas toute la pasteurisation, etc., la méthode de fruits, c'était de confire les fruits.
Ce
qui faisait que, du coup, les confiseurs auvergnats ont prospéré sur la base des gens qui venaient en cure et qui ramenaient leurs fruits à Paris en général. C'est comme ça que la confiserie et le métier de confiseur a démarré en Auvergne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Lorraine.
On sait qu'on est Lorrain parce qu'on est grenat à la vie à la mort.
Bien sûr, évidemment.
Je la croise à la librairie La Pensée Sauvage, avenue de Nancy à Metz, un charmant repère d'amoureux de livres de nature et de poésie.
Pas très loin du stade Saint-Symphorien.
Exactement. Amoureux de livres de nature et de poésie, donc je m'étais perdu.
Oui.
Elle entre dans la boutique, je lui demande son prénom, persuadée de lui avoir déjà signé un livre. Anne-Marie, elle lâche du bout des lèvres. Elle m'assure que je ne lui ai jamais rien signé, elle s'en souviendrait, et je comprends vite que son après-midi serait plus belle si je daignais lui lâcher la grappe. C'est ma fâcheuse habitude de parler aux inconnus. Mais c'est con, j'ai pas envie de lui lâcher la grappe parce que je pressens le bon millésime.
Oui.
C'est que la dame a de l'allure et de la conversation. Alors je pousse un tout petit peu le taillage de bavette en lui demandant si ça va. Attention, un vrai ça va, hein.
Oui.
Pas le gant de toilette tiède de politesse constant à tout bout de champ, sans jamais écouter la réponse.
Oui, non, puis, un vrai, c'est toujours oui, de toute façon.
Un vrai ça va, oui. Intéressé, une main de fer dans un gant de téflon.
Oui.
Et c'est là qu'elle me cueille en répondant qu'elle a enterré son mari la semaine précédente.
Oh.
Ah ben, me voilà bien. Si je m'excuse, je concède avoir gaffé.
Oui.
Or, j'y suis pour rien dans le décessus mentionné.
A priori.
Alors, je demande à Anne-Marie si elle a été heureuse avec son mari et aussi comment ce mari s'appelait. Tout ceci est vrai. Hein.
C'est délicat, non, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Il s'appelait Norbert et il a consacré toute sa vie au sport. Supporter du FC Metz devant l'Éternel, il a été enterré avec un maillot grenat floqué du nombre 33, son année de naissance. Le foot était tout pour lui, précise Anne-Marie. Et lorsque je lui demande si Norbert a pu aller au stade jusqu'au bout, elle s'exclame, évidemment, à la fin c'était dur pour lui à cause de la maladie et à cause des résultats du club. Alors je me suis demandé combien sont-ils en Moselle à indexer la santé ou la courbe de leur morale sur les résultats de leur club de cœur. Pour combien de vrais supporters la météo dépend d'un point arraché à Jean Bouin, La Beaujoire ou Raymond Coppa. J'ai laissé Anne-Marie à ses livres, à sa nature et à sa poésie, songeant qu'on peut aimer sans condition les bouquins, sa femme ou l'équipe de foot de sa ville. Et je me suis laissé espérer qu'un instant entre les rayons chargés d'ouvrages, Norbert avait pointé le bout de son nez.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Alsace.
La dernière fois que vous y êtes allé, je suis sûr que vous aviez un kawé fluo et un petit goûter dans un sac en plastique préparé par maman. Avec plus de 80 oiseaux de proie et 30 espèces différentes, et surtout un spectacle où le seul effet spécial, c'est la nature elle-même, aujourd'hui, je teste pour vous la volerie des aigles. Nous sommes dans les ruines du château de Kilsheim, c'est juste sous le Haut-Königsbourg, et je grimpe les derniers mètres à pied vers la volerie, où je suis déjà accueilli par Eric Renault, le directeur du site, et une équipe de soigneurs passionnés, et quelques cris que j'entends au loin, assez impressionnants, d'oiseaux qui ont l'air quand même assez gros. Et on commence par les coulisses, derrière la zone qui est accessible au public. Et Alexandre, qui est soigneur, est équipé d'un gant en cuir sur tout le bras, et surtout, il est d'un calme absolu. Et je crois que c'est nécessaire. Et autour de nous, plein d'oiseaux. Et chacun d'entre eux est identifié, suivi, observé quotidiennement. Et j'apprends d'ailleurs que les oiseaux ne sont jamais forcés à voler. Ah non, non, non. Ils participent volontairement grâce à un entraînement basé sur la confiance et le renforcement positif. On les encourage, puis on leur donne des petites gâteries pour les remercier quand même. Et c'est ainsi qu'Alexandre me propose évidemment de tenir le gant. Oui, alors pas pour sortir la tarte du four, hein, mais pour tenir, non pas un pigeon non plus, hein, mais bel et bien un aigle, oui, qui passe tranquillement du gant d'Alex et au mien, voilà. Battement d'ailes XXL, je sens les plumes sur ma face, oui, parce qu'il fait son petit point, hein, le petit bonhomme, et heureusement que je suis accompagné, hein. Et étonnamment, je n'ai pas eu trop peur, parce que le regard de l'aigle est si perçant que j'étais quelque peu fasciné. Même si mon bras, lui, l'était un peu moins. La volerie des aigles, c'est la première volerie créée en France. C'était en 1968. Et à l'époque, elle avait été créée surtout pour changer l'image qu'on avait des rapaces, qui ont été longtemps persécutés. Allez, hop, le spectacle commence. Je m'installe dans les gradins. Et je constate que pas de musique spectaculaire. Hein, juste une voix, des explications sur la vie et les comportements des rapaces. Et soudain... lointain dans le ciel au-dessus de nous, un vautour apparaît au-dessus des remparts, silence total. Et même les enfants arrêtent de parler, ça c'est pas mal. Le soigneur explique que certains oiseaux dépassent même les 2 mètres d'envergure. Et c'est grand 2 mètres, hein. Et il demande au public de rester bien immobile pour faire un passage encore plus près de nos têtes. Alors j'applique, je reste immobile, et sauf que ma tête, elle continue de regarder l'oiseau au-dessus de nous, un peu comme au tennis. Mauvais réflexe. Et j'entends mon voisin qui me chuchote, faut pas bouger. Ah oui, en effet, hein, parce que plusieurs rapaces s'élancent, hein, chouettes, aigles, pigargues, et on en prend plein les yeux.
tout cas, moi, j'ai retenu une chose. Hein. C'est qu'ici, eh ben, c'est pas les humains qui regardent un show d'oiseaux. C'est plutôt l'inverse. Hein. C'est les oiseaux qui nous observent en train d'essayer de rester calme. Et ça, c'est tout un spectacle.
Vous écoutez ici.
Just emotion from my emotions, crashing my deepest crush. When the lights dim down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Yeah, the watch on your wrist says that any minute we'll start making love. When the lights dim down, buzzing in the distance, I'll never get enough of the way we touch. The way we touch. The way we touch. The way we. The way we. Sweat drips down from the rim of the drink to the glass on the tabletop. Your gaze on let go, my heart echoes, all the tension drop. The watch on your wrist says that in a minute we'll start doing stuff. And the lights dim down, buzzing in the distance, I'll never get enough. Oh, baby, I'm rationalizing against all the signs of my body.
Oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Garlozère.
Bonjour, je m'appelle Esteban Raymond. Ma passion est d'organiser les fêtes votives.
Je voudrais un jaune et des glaçons dans un verre à ballon.
Ah, étrange, quand on vient du Sud, c'est pas étrange. C'est la tradition, c'est la beauté du Sud. Ça me représente du plaisir parce qu'on organise quelque chose qui donne de l'envie aux gens, qui donne le sourire aux gens. Ça permet de se retrouver, c'est ce qui est beau.
Vous avez toujours vécu avec ça dans votre village, les villages?
Ça fait 22 ans que je vis ici, depuis le 15 octobre 2003 où je suis né, et je vis depuis avec les fêtes votives.
Donc Saint-Hilaire-d'Ozillon, les fêtes votives, elles sont incroyables ici?
Ah, ici, Monsieur Duport-Jeronet est un très très bon président. Moi, je suis président dans le village voisin, à Castillon-du-Gard. Bon, ben, ça fait depuis mon plus jeune âge où je fais la fête. Donc, maintenant, faire monter la fête, monter les projets de la fête votive toute l'année, moi, c'est un honneur. On organise toujours des surprises. Chaque année, on change. Chaque année, on peut rajouter une manade. On peut changer les DJ. On peut changer les animations qu'il y a dans la fête. On peut changer même ce qu'on fait au cours de l'année parce qu'il n'y a pas que les taureaux. Il y a les lotos, il y a les soirées. C'est le loto, je crois que c'est même plus compliqué à organiser que la fête votive.
Pourquoi ça vous passionne tant d'organiser tout ça?
Donner autant de sourires aux gens. faire vivre nos traditions, c'est magnifique. Moi, j'aimerais que mes, si plus tard j'ai des enfants, ils puissent vivre le, la même enfance que j'ai eue avec les fêtes votives. Mm-hmm. C'est magnifique. Avec tous ces problèmes d'assurance, de maladie actuellement, c'est très compliqué, mais on va arriver à se relever.
La fête votive démarre. Vous, vous en profitez quand même un peu ou...
On en profite, mais on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Mais grâce à tous les membres qu'on a, on peut arriver à tourner un peu. Des fois, il y en a un qui va faire la fête pendant que les autres servent et on essaie de tourner. Puis à des moments, on a les parents qui passent derrière le comptoir et nous, les enfants, on retourne faire la fête.
Votre fête votive, elle est parfaite. Elle serait composée de quoi ?
De bonheur, de joie et de beau taureau. Le plaisir de voir les gens heureux, le plaisir que nous, on soit heureux. Même en servant, en s'occupant de la fête, il faut qu'on soit heureux. Il faut qu'on fasse la plus belle fête pour que les gens soient les plus heureux.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
Ici Besançon.
Louis Paton.
Ici Matin.
Il a pour le coup des histoires qui nous restent bien dans la tête, c'est Arnaud Fromage qui est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour à tous.
Arnaud, ça faisait longtemps que vous ne nous aviez pas déterré une vieille loi de l'époque révolutionnaire. Hein.
Oui, mais cette fois j'en ai trouvé une qui sert vraiment à quelque chose. Je dirais même que c'est une loi qui a tout changé. Il s'agit de celle qui, en 1799, a instauré en France le système métrique. Ou plutôt, le système MKPS pour mètre kilogramme poids seconde. Trois unités de base pour les unir toutes et en finir enfin avec les toises, les perches, les pouces, les lieux, les livres et les boisseaux. Il faut dire que chaque région et parfois même chaque ville possédait sa propre unité de mesure. À Besançon, c'était l'Aune, par exemple, qui mesurait un peu plus de 80 cm. Pour éviter les embrouilles, eh bien une tige en métal, une aune étalon, avait été scellée dans la pierre au XVIe siècle à l'extrémité gauche de la façade de l'hôtel de ville. Et elle y est toujours, d'ailleurs, elle est toujours en place. Mais voilà, à la demande des commerçants de l'époque, un système identique était nécessaire et ce fut donc le système métrique.
Le système métrique qui a depuis été adopté par presque tous les pays du monde, on peut le dire. Hein.
Oui, en gros, il n'y a que les États-Unis, le Libéria et la Birmanie qui refusent toujours le système métrique. Et c'est vrai que le Royaume-Uni l'utilise en traînant des pieds. Le système métrique, qui a évolué d'ailleurs depuis, il a intégré le système SI, le système international, qui rassemble toutes les unités de mesure de base desquelles on peut calculer toutes les autres. Et elles ne sont que 7. Le kilogramme, la seconde et le mètre, donc, auxquels s'ajoutent le kelvin pour la température, l'ampère pour l'intensité électrique, la mole pour la quantité de matière et le candela pour l'intensité lumineuse.
Et avec ça, on peut tout calculer ?
En grande partie, oui, les autres unités se déduisent de ces sept-là, mais il y a malgré tout un monde qui résiste encore et toujours au système métrique et je dirais même à la logique humaine, celui des pointures de chaussures. Personne n'y comprend rien, alors j'ai mené des petites recherches. Tout part du point de Paris, inspiré du quart de pouce britannique. La pointure d'une chaussure est calculée en divisant la longueur de l'intérieur de la chaussure en centimètres par le point de Paris. En gros, une pointure 40, ça fait environ un pied de 26 cm de long. Pour les Italiens, c'est le même calcul, mais avec une pointure en moins. Les Américains commencent à compter à partir de la taille 1, qui correspond à notre 31. Les Anglais, c'est pareil, mais eux, ils commencent à 0. Les seuls qui ont un système à peu près compréhensible, ce sont les Japonais. En gros, un pied de 26 cm correspond à la taille 26, et ensuite, on décale, mais toujours en fonction du fameux point de Paris. En résumé, il serait peut-être temps de mettre un bon coup de botte là-dedans, parce que, rayon chaussure, moi, je ne sais plus sur quel pied danser.
Ah, c'est le cas de le dire, oui. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu avec tout ça. Merci beaucoup, notre cher Arnaud Fromage, avec ses nécessaires minutes comptoises. Et puis à très bientôt.
À demain.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Oui, j'adore. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on chante ? Et qu'est-ce que ça peut apporter le fait de chanter ?
De donner de l'ambiance ! Ouais !
De s'amuser.
Prenons le problème à l'envers et on va arriver à l'homme. Pourquoi les oiseaux chantent ?
Pour appeler les autres oiseaux.
Pour qu'ils donnent à manger. J'ai faim.
On peut se tutoyer ?
Ouais.
Ouais. Sympa. T'es lourd.
Mais j'ai quand même faim.
Ils appellent les oiseaux. Ils disent j'ai faim. Vous pouvez me donner à manger ? Est-ce que vous êtes parti pour aller partir me prendre à manger ?
Donc tu penses que les oiseaux chantent pour demander à manger ?
Oui. Pour nous réveiller peut-être. Bah aussi des fois ils chantent le midi pour dire s'il y a un danger ou pas.
Et donc nous, pourquoi est-ce qu'on chante? Vous aimez chanter?
Oui, j'adore. Ouais.
D'accord. Et à part ça, tu chantes quoi quand tu chantes?
Je sais pas, Pierre Garnier. Chaque seconde, ce qu'on était.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve.
J'ai vu un chanteur L2B.
Chercheur, pourquoi chercher le papier tous les jours? C'est pour papa, faut un château. Je sais même plus si je suis dans une château, une fontaine, dans même un bateau.
Et pourquoi tu chantes et pourquoi tu... Qu'est-ce que ça t'apporte en fait?
Pour s'amuser, pour nous donner de la joie.
Est-ce que ça fait du bien par exemple de chanter?
Oui, ça délibère les émotions.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur.
Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, Noël, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils. Et à deux, millionnaire, que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant.
De rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Contes et légendes d'ici, tous les week-ends avec ici Bourgogne.
Il était une fois une légende à Santenay. Nous sommes en territoire viticole, toujours en Bourgogne. Cette histoire s'appelle Les Teux blancs de Santenay. un conte de Sandra Amani de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant. Bonjour Sandra.
Bonjour Charlotte.
Les teux blancs de Santenay, c'est un rapport avec le vignoble ?
Oui, vous allez le comprendre en écoutant cette histoire. Nous sommes le 16 juillet 1919. C'est un grand jour à Santenay. Des milliers de fleurs ont été accrochées aux portes et aux fenêtres du village. Les cloches de l'église carillonnent à toute volée et les dames portent de longues robes claires et de beaux chapeaux. Lucille, la fille d'un des plus riches fermiers du village, épouse Norbert. Un ancien soldat, issu d'une famille plus modeste, qui s'est joliment distingué durant la guerre. Mais à présent, il a décidé de déposer les armes et de renoncer à cette noble fonction pour demeurer près de sa belle. Le travail ne manque pas à la ferme. Le père de Lucille possède aussi de beaux hectares de vignobles. Norbert est certain de ne jamais s'ennuyer.
Oh, quelle chance d'être au bras de Lucille, une fille aussi belle et aussi riche. Oh, mais qu'elle était longue cette messe, j'ai cru qu'elle n'en finirait jamais.
Norbert n'a qu'un seul défaut, il ne croit pas en Dieu. Il faut dire que les horreurs de la Grande Guerre ne l'aident pas à retrouver la foi. Lucille, elle par contre, est très pieuse.
Mon jeune époux accepte au moins d'aller à la messe le dimanche.
Les jours passent, Lucille est heureuse. Norbert est devenu un fermier travailleur. Mais certains matins, il revoit du sang jaillir de la terre. Cependant, bien vite, il oublie les bombes et fait repartir ses magnifiques bœufs tout blancs dans son champ. Le soir, il peste auprès de sa jeune épouse, toujours en train de prier pour un oui ou pour un non.
Si ton Seigneur existait, il n'aurait pas permis tous ces morts dans les tranchées. Il n'aurait pas toléré les larmes de toutes ces pauvres femmes qui pleurent aujourd'hui, un mari, un fils, un frère.
Lucille ne répond plus. Elle préfère garder son calme. S'énerver pourrait nuire au bébé qui va arriver prochainement. Nous sommes le 10 juin 1920. Il fait un soleil superbe à Santenay. C'est la fête Dieu. Sur les coteaux, les vignes se prélassent dans leurs jolies robes vertes. Les villageois se préparent à assister à la grande messe. Mais dans la ferme de Lucille, le climat est loin d'être aussi serein. Norbert ne veut rien entendre. Il n'ira pas à l'église. Au lieu de cela, il travaillera dans les champs.
Je t'interdis formellement d'atteler les bœufs ce matin. Au moins, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ton âme, mon chéri.
Norbert sort de la maison en claquant la porte. À midi, de retour de l'église, Lucille ne trouve pas son mari et décide de partir à sa recherche.
Oh, je vais aller voir au champ. Il doit y être avec les bœufs, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Tiens, quel est le plaisantin qui a amené ces trois rochers dans mon champ ? Bon, ils ne gêneront pas le labour, c'est déjà ça.
Le soir tombe, Norbert ne revient pas.
Mais où peut bien être le jeune époux de Lucille ? Pourquoi ne revient-il pas dans sa ferme à Santenay ?
Ici Bourgogne vous raconte les contes et légendes de votre région.
Quelques mois après la fin de la Grande Guerre, un jeune couple s'est dit oui pour la vie à Santenay. C'est la légende des teux blancs de Santenay, de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant et écrit par Sandra Amani.
Norbert, ancien soldat traumatisé par la guerre et jeune marié, est toujours absent. Lucille, sa femme, est enceinte, mais garde espoir depuis ce fameux dimanche où Norbert a préféré aller labourer son champ plutôt que d'aller à l'église. Dans le village, la rumeur de sa disparition prend de l'ampleur.
« Ah, quel salaud ce Norbert ! En plus, il est parti lâchement en emmenant les bœufs et la charrue !»
Un matin, un sentiment étrange pousse Lucille, sur le point d'accoucher, à se rendre dans le champ sous la roche fendue de son village, Santenay. Nous sommes en mars. Son gros ventre la gêne un peu pour marcher. Courageuse, elle lutte pour son enfant. Arrivée dans le champ, elle est saisie d'une violente douleur au ventre.
« Appuie-toi contre moi !»
Lucille a si mal qu'elle ne prête pas attention à cette voix lointaine d'homme. Machinalement, elle s'assied au pied du plus petit des rochers qui se trouve à côté d'elle. La douleur cesse et Lucille finit par s'endormir.
« Repose-toi, tendre Lucille. Ton mari veille sur toi. Je ne t'ai jamais abandonnée. Je suis là,
près de toi avec nos bœufs et la charrue. Le Seigneur s'est vengé de mon impiété et m'a sévèrement puni. Ces trois rochers que tu vois là, c'est nous, les bœufs et moi. S'il te plaît, prie pour mon âme et tu me délivreras pour l'autre monde.
À son réveil, Lucille comprend pourquoi son mari n'est jamais revenu. Elle regarde un par un ces trois rochers.
Mon amour, bientôt tu ne souffriras plus. Je vais prier nuit et jour pour sauver ton âme.
Lucille se lève péniblement. Les contractions sont de plus en plus intenses. Le bébé sera là ce soir, elle en est certaine. Elle quitte le champ. Bientôt, elle reviendra près de ses rochers avec son fils ou sa fille. Et elle lui parlera de Norbert avec tendresse.
Aujourd'hui, on peut encore voir les trois blocs de pierre situés en dessous de la roche fendue. On les nomme les teux blancs de Santenay.
Eh oui, Charlotte. Le mot teux signifie roche dans les régions viticoles de Bourgogne. Il peut aussi désigner la falaise.
Heureusement, l'âme du pauvre laboureur n'est plus prisonnière de la pierre de Santenay depuis longtemps déjà. Malgré tout, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez encore entendre Norbert guider ses bœufs à travers champs et Lucille qui l'accompagne joyeusement en chantant.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Vaucluse.
Elle est complètement dingue cette histoire, Hugo, et pourtant son nom ne vous dit rien. Je pense presque à personne. Marcel Chaumien, un homme discret devenu vauclusien d'adoption, maire d'un petit village quand même du Luberon, et en même temps l'un des personnages clés des services secrets français de l'après-guerre.
On peut dire un maire espion.
Exactement. En fait, maire, c'était sa couverture. C'est quand même assez dingue cette histoire. Marcel Chaumien n'est pas né en Provence, il voit le jour à Reims, dans la Marne, mais tout change en 1944 lorsqu'il est envoyé en mission dans le Vaucluse en pleine Seconde Guerre. C'est là en fait qu'il découvre le territoire et qu'il va s'engager autour de la résistance locale, aux côtés de la résistance surtout vauclusienne, et qui ensuite s'installera après la guerre chez nous. Alors avant ça, Chaumien était un militaire d'élite, un parachutiste d'essai. Ah, c'était oui. Un métier assez risqué, hein, puisqu'il consiste en fait à mettre au point des parachutes, les équipements, mais aussi les techniques de saut.
Et sûr déjà que ça s'ouvre pas en fait, c'est
ouais,
ça.
Oui, et puis surtout les ennemis aussi. Ouais. Il pouvait sauter de nuit, dans les forêts, voilà, donc c'est assez dur, et cette expertise va faire de lui en fait un homme clé des opérations clandestines.
Et c'est là qu'il bascule dans le renseignement.
Bah oui, parce que son CV est super beau, ancien résistant, parachutiste, membre du service Action. Marcel Chaumien va travailler d'abord pour le SDECE, c'est l'ancêtre de la DGSE en fait. On le retrouve dans les années 40-50 sur des missions ultra sensibles, et en fait il va entraîner nos agents secrets dans le parachutage notamment. Il va participer aux opérations du rideau de fer en Afrique, en Europe de l'Est, et dans les archives son nom apparaît, alors son nom d'emprunt, hein, puisqu'il avait un pseudo, vous imaginez bien, oui. Aux côtés de figures centrales. Tiens par exemple Jacques Faucard, c'est le conseiller très secret du général de Gaulle, s'il vous plaît. Donc c'est quand même du très haut niveau. Chaumien qui circule entre ambassades, pistes africaines, aéroports parisiens et réseaux clandestins. Et pendant ce temps-là, notre Marcel, donc, il est élu dans le Vaucluse.
Et oui, incroyable ce parcours.
Exactement. C'est là que l'histoire devient fascinante. Marcel Chaumien devient maire de Viens en 1959. Il va le rester jusqu'en 1977. Trois mandats, 18 ans donc au service du village. Il faut s'imaginer, la journée, il va s'occuper d'assainissement, d'école, de voirie. Et régulièrement, il reprend l'avion pour Paris-Orly, Roissy, ouais. Pour retrouver les services secrets où il va mener cette double vie pendant des années.
Et on comprend mieux pourquoi on ne connaît pas son nom. Hein.
Oui, je vous ai parlé de Jacques Faucard, le conseiller très spécial de Gaulle. Il dira que c'est un homme très bien, courageux, un agent secret qui ne cherchait aucune reconnaissance. Marcel Chaumien meurt en 1979, décoré, respecté dans les cercles du pouvoir, mais finalement presque inconnu du grand public. Ce destin, c'est comme un roman d'espionnage, il faut le dire quand même. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Catherine Chaumien, sa fille, qui le raconte dans des conférences en Vaucluse. On a pas mal d'archives aussi qui existent, notamment au service historique de la Défense. On a des ouvrages sur l'histoire du service secret français où il est nommé souvent.
Ouais.
Et aujourd'hui, je vous mets tous les documents et les photos grâce à sa fille Catherine, que je salue, sur notre appli. Ici, vous le voyez au bras de Gaulle et aussi pendant ses missions. Enfin, c'est juste exceptionnel ce discours et surtout ce destin de Marcel
Chaumien.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
Dimanche matin, levé avant le soleil, vers 9h, vous descendez prendre un café que vous pensez amplement mérité. 8 heures de sommeil, franchement, on mérite une pause café. Et devant la cafetière, votre cousin regarde attentivement le café couler. Ça s'appelle une sentinelle de cafetière. Et là, il se retourne et dit « Bon, t'es déjà debout ? Il fait corps noir, t'as quitté ta lit ou quoi ?» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. Taquer ta lit. C'est une réflexion semi-désagréable, parce qu'il y a plusieurs niveaux de réflexion désagréable. Ça dépend de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait. Admettons, il fait 27 degrés à l'ombre, et ben c'est l'heure de « fais pas chier ». Ou alors, il y a 3 grammes à quart. Et ben c'est pas la peine de se demander pourquoi il est désagréable d'un seul coup, c'est parce qu'il n'y a plus de canette.
Exemple.
Vous avez la réflexion désagréable qui serait « t'es déjà debout ? Ah, retourne te coucher, c'est pas de jour à me faire quiller du côté de la cafetière, hein ?» La réflexion pas désagréable, t'es déjà debout. Oh bah alors, j'ai fait du café pour un régiment de soldats, t'inquiète, assieds-toi, je te ramène un jet. Réflexion semi-désagréable, bah t'inquiète, t'as lit ou quoi ? Petite phrase qui présuppose que pour que vous parvinciez à vous lever tôt, il faille forcément que vous fûtes tombé du lit. Vu que vous n'êtes pas totalement du nord, que forcément tout ce qui est au sud du péage d'Arras possède un degré de fainéantise qui augmente au fur et à mesure qu'on s'approche de la Côte d'Azur. Ou là-bas, pour se lever tôt, bah faut pas qu'ils quittent leur lit, hein, mais qu'ils descendent en rappel. Allez, au revoir, hein, et à une baisse à ma reine.
Local, musique et bonne humeur.
Qu'est-ce qu'elle attend, la petite lady, car sans hasard. Renard derrière la voilette du chapeau, avec une poule d'autruche pour faire plus beau. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle. La petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini-jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser. Cendrillon, tu marches comme une reine. Dans les yeux de ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine. Je vais pas te laisser partir avec un légionnaire.
Le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Chaque week-end, Patrick Citeau explore nos communes du Poitou. Il part aujourd'hui à Saint-Chartres dans la Vienne, ce village situé au cœur de la commune de Moncontour de Poitou, qui abrite un moulin depuis plus de 700 ans.
Situé au nord-ouest de Poitiers, à 20 km de Loudun, le village de Saint-Chartres abrite ainsi la bâtisse de ce moulin à eau implanté sur la Dive. Bien que sa construction date d'avant le XIVe siècle, le moulin impose toujours sa puissante silhouette dans le paysage. Entretenu au fil du temps, il a su mettre à profit l'énergie hydraulique de la Dive en s'adaptant aux évolutions techniques et notamment au cours du XIXe siècle. De cette époque, le moulin de Cholet nous a transmis un mode de production d'énergie innovant. Il a en effet la particularité d'être équipé d'une roue de type Sagebien. C'est Alphonse Sagebien qui invente ce type de roue à vanne dans la seconde partie du 19e siècle. Elle fonctionne plus par le poids d'eau que par la vitesse du courant. Ce type de roue est d'autre part parfaitement adapté aux faibles chutes. La roue Sagebien du moulin de Cholet entraîne ainsi une génératrice à aimant permanent. Ce système permet la production d'un courant électrique alternatif de 400 volts, ou quand une invention du 19e siècle s'accorde aux exigences de la transition énergétique à notre époque.
Et au début des années 70, Patrick, le village unit son avenir à Moncontour.
Le village est ainsi associé à la commune au même titre que ceux de Messey et Ouzilly-Vignoble. Les origines du nom du village réservent quant à elles quelques surprises. La liste des saints ne compte en effet aucune mention du dénommé Chartres. Il faut ainsi probablement y voir une erreur de transcription. Le village était ainsi a priori connu sous le nom de Saint-Cyr pendant toute une période. On trouve trace de cette forme toponymique au XVe siècle. Le lieu est alors dénommé Sanctus Siricus Supra Divam. Peu de temps avant la Révolution, on en trouve trace sous l'appellation Saint-Cyr-sur-Dive. La probable erreur de transcription qui mène à Saint-Chartres intervient à une date indéterminée. Avec ses deux hameaux, Jay et Héron, ainsi que ses trois lieux-dits, Cholet, Plumain et Loret, ce petit bout de territoire de la Vienne continue malgré tout d'afficher son paysage en plein cœur du Loudunais.
Merci Patrick Citeau. Tout est à retrouver sur ici.fr, la rubrique Nom de nom.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Pays d'Auvergne.
Là, je suis à Saint-Amand-Talande et je me dirige vers la librairie de la Monne. Alors, c'est pas le diminutif de Simone, donc c'est pas Momone qui tient la librairie de la Monne. Ça aurait pu, oui, non, mais c'est pas ça. La Monne, c'est la rivière, hein. Et donc, il y a déjà, par exemple, le tennis club de la Monne et la librairie de la Monne. Rentrons. Bonjour madame.
Bonjour.
Au revoir madame.
Au revoir.
J'irai voir Anne-Laure tout à l'heure, mais on va déjà saluer Johan. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors Johan, c'est vous avec Anne-Laure qui avez ouvert cette librairie de la Monne ici à Saint-Amand-Talande.
Tout à fait, on a ouvert en décembre 2023. Ouais. On a repris le local d'une fleuriste et on a créé la librairie. Voilà.
Ça fait café ?
Ça fait café, il y en a aussi des jeux de société, de la carterie, un petit peu de papeterie, surtout des livres, hein, mais et une petite partie café et salon de thé.
Vous venez ici à la librairie de la Monne, vous êtes de Saint-Amand ?
Je suis à côté, à Saint-Saturnin, oui. Donc c'est bien pratique parce que du coup, ils ont tout ce qu'on veut, puis c'est dans les mêmes tarifs, donc et puis en même temps, bah, c'est sympathique, c'est convivial, et puis voilà.
Et puis ça a amené de la vie, hein ?
Ça a amené de la vie parce qu'il y en avait besoin. Il y en avait une ancienne, je suis là depuis très longtemps, donc il y en avait une avant et c'est vrai que ça manquait énormément, voilà.
Eh bien, ça va bien faire plaisir à la patronne, j'imagine.
On a eu un très très bon accueil de tous les habitants du secteur, là, à la fois des trois communes, Talande, Saint-Amand et Saint-Saturnin, mais plus largement, en fait, on touche des gens un peu de toute la communauté de communes Mont-d'Arverne.
Là, on est sur une librairie où il y a tout le temps du monde. Hein.
Oui, oui, tout le temps, tout le temps. Puis même au niveau des jouets et des livres pour enfants, moi j'ai deux arrière-petits-enfants, c'est génial, on repart toujours avec quelque chose. J'ai dit à mon mari, j'en ai pour 2 minutes parce que c'est un livre commandé, mais des fois il sait que je reste une demi-heure.
J'en ai pour 2 minutes, chérie, je reviens dans 2 heures. Eh bien, je vis un moment très sympathique, là, je vais m'installer avec mon petit café. Et tout est mignon, la tasse à café, mignonne. Et ce mini tagine là pour mettre les sucres me fait penser que vous avez passé une partie de votre vie, me semble, à Casablanca, vous, hein ?
Oui, c'est ça. On a passé 3 ans, bah, avant de venir s'installer ici dans le Puy-de-Dôme, on a passé 3 années à Casablanca. On a ramené plein de jolies vaisselles, et notamment dans cette collection là, on a trouvé c'était à Essaouira, je me rappelle, une boutique en fait où ils avaient des poteries un peu particulières, et du coup on a fait le plein et on a ramené ces petits tagines qu'on utilise maintenant pour le salon de thé.
Pour mettre le sucre.
Cette librairie, on a voulu qu'elle soit aussi un petit lieu où les gens puissent se poser, boire un petit café, un thé, s'asseoir, bouquiner avec les enfants. Ça fait une ambiance agréable. Il y en a qui viennent travailler, même des fois l'après-midi, ou peindre, ou voilà.
Il y en a qui viennent s'installer avec un ordi, par exemple.
Oui, ils viennent avec leur ordinateur, ils travaillent. On a des artistes qui font des livres ensemble, avec une illustratrice et une autrice qui travaillent ensemble. Elles se posent à la librairie avec un petit thé. Ouais, ça fait une petite ambiance sympa.
C'est pratique, hein, d'être ici, voilà, un bel endroit.
Et fabuleuse. Donc on est toujours très bien conseillés. Enfin, c'est pour ça.
Quand on pousse la porte de la librairie de la Mone, en fait, et c'est écrit là, d'après Georges Sand, l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Avaler des légumes aux ados, c'est souvent mission impossible.
Parce que c'est pas bon.
Et si en plus les légumes sont moches, bah là c'est carrément la guerre.
Oh, toi, file dans ta chambre, avec ça saute. Dépêche-toi, allez, housse.
Carottes tordues, navets craquelés, patates trop grosses ou trop petites, difficile de leur faire avaler tout ce qui sort des standards parfaits des supermarchés.
Non, j'ai pas faim.
Du coup, les légumes moches finissent à la poubelle. Pourtant, ces légumes-là ont autant de goût, voire plus de caractère. Mais non, ils ne rentrent pas dans le moule. Comme dans la vie, ce qui n'est pas dans la norme est souvent mal perçu. Et dans l'alimentation, bah, carrément jeté.
Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien.
Au lycée d'Avier à Joigny, on a décidé de casser les codes et de ne rien gaspiller avec une soupe un peu spéciale.
Tiens, ça c'est de la soupe au chou.
Alors, elle n'est pas forcément au chou, mais tous les mercredis, entre 10h-10 et 10h10, c'est l'effervescence dans la cafétéria. Des centaines d'ados, des cuillères qui s'agitent, des verres de soupe qui disparaissent en un clin d'œil, 150 portions englouties avec le sourire. Le secret ? Une soupe préparée avec des légumes moches. C'est tellement bon. Bah oui, des carottes difformes, des pommes de terre irrégulières transformées en un délice réconfortant.
Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer.
Et puis l'équipe choc de l'association Lycévasion, née en 2025, est arrivée et elle a tout changé. Avec cette idée choc, et si on montrait que moche ne veut pas dire mauvais ? Et ça marche, les élèves adorent, tout se passe comme sur des roulettes au lycée Louis Davier. Voilà un geste d'éducation de bon goût, doublé d'un geste solidaire et anti-gaspi, qui met dans le mille. Du coup, j'ai envie de m'y mettre aussi. Allez, sauvons les légumes moches.
Ici.
m'arriver à moi, à moi.